Bonjour Daniel Obono.
Bonjour.
Deux jeunes femmes ont été assassinées au couteau hier à Marseille par un homme qui aurait crié « Allah Akbar » selon plusieurs témoins. Marseille pleure avec ses pauvres victimes. L'assassin, aussi répugnant que ses motifs, a tweeté Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que vous auriez dit les choses comme ça ?
Non, peut-être pas, mais je pense que je partage et nous sommes des millions aujourd'hui à partager le sentiment exprimé par Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire à la fois l'horreur et puis la solidarité avec la famille des victimes et la ville de Marseille.
De quel motif parle Jean-Luc Mélenchon selon vous dans ce tweet ?
Quels que soient les motifs, c'est-à-dire qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à commettre un acte aussi barbare, aussi terrible ? Ça on ne le saura jamais, on ne sait pas, on va voir ce que démontre l'enquête, s'il y a des éléments qui permettront de comprendre ces motifs, mais quels qu'ils soient, de toute façon, c'est un acte de terreur et qu'il est normal et condamné de la manière qu'il faut, il me semble, par aujourd'hui toute la classe politique.
Vous avez hier émis des doutes sur le concept de radicalisation. Ce n'est pas un concept scientifiquement établi, avez-vous dit. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Ça veut dire que c'est un terme attrape tout. C'est-à-dire que là, dans cette séquence, la journaliste, votre collègue, me parlait de
un conducteur
de bus qui refuserait de laisser de travailler après une femme, en disant est-ce que c'est un signe de radicalisation terroriste. Ce que j'ai répondu, c'est que c'est un signe, un comportement sexiste qui doit être sanctionné par la direction. Si c'est un fonctionnaire, c'est un refus d'assurer son service, etc. De passer de ça, d'un cas clair de sexisme, d'un comportement qui doit être sanctionné dans ce cadre-là, à ce que prévoit la loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, c'est-à-dire mettre quelqu'un en surveillance à domicile, perquisitionner, etc. Il y a justement toute l'élan tendu de la zone grise dont parle, dont on a un peu discuté à l'Assemblée sur le concept même de radicalisation, y compris les spécialistes de la question de la lutte antiterroriste sont très prudents sur ce terme-là et sur ce à quoi ça renvoie. Ça fait partie du problème que nous avons soulevé à l'Assemblée sur les limites floues et les termes pas assez objectivables de ce débat-là et tout ce qu'il y a dans l'amalgame autour de ce débat-là. Donc
Vous doutez du lien entre radicalisation et terrorisme ?
Non. De fait, des individus qui commettent des actes de terrorisme ont eu à un moment donné un processus où ils ont fait le choix. Et donc la question, c'est quelle est la nature de ce processus-là ? Quels sont les profils ? On le voit, on le sait aujourd'hui avec les personnes qui ont commis des actes de terrorisme. Il y a des trajectoires très différentes, il y a des profils différents.
Daniel Obono, c'est tous les terroristes sont radicalisés, mais tous les radicalisés ne sont pas terroristes, c'est ça ?
Écoutez, oui, on peut le traduire comme ça. Ce qui est sûr, c'est que là, de quoi on parle exactement ? On parle de comportement, on parle de cet exemple, d'ailleurs fondé ou pas, ou est-ce qu'il s'agit...
C'est un cas qui s'est produit,
De cet acte-là, au fait de considérer que cet acte-là est révélateur ou le début, le premier commencement ou le signe de quelqu'un qui va commettre un acte de terrorisme. Je veux dire, entre ça et justement la commission d'actes de terrorisme, il faut se donner, y compris les moyens, à la justice. Enfin, il y a encore une justice, il y a encore un état de droit. On ne peut pas condamner en prévention quelqu'un d'un acte qui n'a pas été commis et le juger coupable de faits qui sont complètement disproportionnés entre un acte sexiste et ça qui doit être condamné. Il existe aujourd'hui dans le code de la fonction publique, même dans le privé, des moyens de condamner une personne qui commet ces actes-là à le soupçonner d'être quelqu'un qui commettra un acte de terreur, qui se mettra à assassiner des gens. Donc justement, le problème du débat sur la loi tel qu'il s'est posé et malheureusement tel qu'il est reproduit, notamment dans les médias, c'est un caractère totalement disproportionné en utilisant des concepts fourre-tout et sans la mesure et le sang-froid qu'il faudrait sur un tel sujet.
Qui est responsable, selon vous, Daniel Obono, des violences qui ont eu lieu hier en Catalogne à l'occasion du référendum sur l'indépendance organisé par les autorités locales mais interdit par le pouvoir central ?
Mais clairement, c'est le pouvoir central, le pouvoir politique. Quoi que l'on pense, y compris du choix fait par les Catalans et les Catalanes, les images de forces de police cagoulées qui brisent des vitres pour empêcher un vote sont absolument extrêmement choquante et scandaleuse. Et donc, oui, de tout ce qui nous a été reporté, de tout ce qu'on a pu voir, il y a eu une manifestation pacifique, des manifestations pacifiques, y compris protégées par des pompiers, par exemple, et une répression extrêmement dure du pouvoir central, qui ne peut que aviver les tensions. Et je pense que, encore une fois, voilà, c'est un débat qui concerne les peuples espagnols, le peuple catalan, mais la réaction du pouvoir central est absolument grave, justement, quand on parle de démocratie, quand on est responsable politique, on ne peut que condamner ce type de comportement.
Est-ce que les autorités catalanes ne sont pas allées volontairement au clash, puisque ce référendum était interdit et considéré comme illégal? Est-ce qu'elles n'ont pas voulu provoquer ce bras de fer?
Ah, bien sûr qu'il y a un rapport de force qui s'institue. Mais de ce que l'on sait aussi, c'est que formellement, le Sénat n'avait pas encore été saisi et n'avait pas interdit. Donc il y a aussi ce laps de temps, on va dire, institutionnel, qui aurait dû permettre qu'il y ait un débat, y compris que le vote puisse se passer, il aurait pu se passer sans avoir ces actes de violence de la part des forces de police. Et ensuite, avoir un débat politique. La politique, ça sert à ça, justement, à éviter des situations de tension, de violence, en essayant de sortir par le haut. Et je pense que là, quelle que soit la suite, le pouvoir de Madrid a perdu son action en légitimité, et dans le rapport de force, a perdu énormément de légitimité par sa réaction extrêmement violente.
Vous êtes favorable à l'autodétermination des régions dans les États ?
Moi, je suis favorable à l'autodétermination des peuples et à l'expression démocratique de ces peuples-là.
Est-ce que les Catalans sont un peuple?
Ça, ce n'est pas à moi de le dire. Ah, je pense que c'est aux Catalans. Et justement, peut-être que si le vote s'était passé dans des conditions suffisantes, il n'est pas sûr que le choix de l'indépendance aurait été pris. Ça a été le cas, par exemple, on l'a vu avec l'Écosse. Donc, ce n'est pas à moi, en France, de pouvoir dire ce que les Catalans devraient être ou comment ils identifie. Il faut respecter cela, parce que si on se refuse à respecter cela, on revient en arrière sur tout ce qu'a comporté les luttes de libération nationale, et je pense qu'on se crée plus de tensions qu'autre chose. Il faut comprendre pourquoi ces revendications, à un moment donné, deviennent plus fortes, et comment est-ce qu'on arrive à faire peuple ensemble, même si les formes institutionnelles vont être différentes. Mais je pense que c'est un débat important qui ne concerne d'ailleurs pas que l'État espagnol ou le peuple catalan, mais au niveau européen, la question d'aujourd'hui, comment on fait communauté politique et comment on accepte des fois des expressions démocratiques qui vont à l'encontre peut-être des unités nationales établies depuis quelques siècles.
Rapidement, est-ce que votre espoir aujourd'hui de remporter la bataille contre la réforme du Code du travail réside dans une mobilisation forte de la jeunesse, à laquelle d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon appelle très explicitement ?
Oui, bien sûr. La jeunesse, c'est un secteur extrêmement important qui va être directement impacté par les réformes qui sont mises en œuvre. On a vu une des dernières grandes victoires que nous avons pu obtenir en termes de mouvement social, ça a été le CPE et qui a été porté par la jeunesse. Donc, bien sûr que nous espérons que dans les lycées, dans les facultés, il va y avoir une mobilisation. Là, il y a plusieurs rendez-vous qui sont donnés, les fonctionnaires d'un côté, d'autres secteurs en lutte. Et c'est la convergence de toutes ces luttes-là auxquelles nous participerons, qui devrait permettre de construire le rapport de force pour empêcher que ces ordonnances soient ratifiées au Parlement.
Merci Daniel Obono. Bonne journée.
Merci à vous.